7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, la mondialisation nous montre un autre visage.
La production n'est plus au rendez-vous, le niveau de vie non plus. Et la mondialisation crée des inégalités de revenus et accélère les flux migratoires.
Mondialisation rime souvent avec multinationales des pays développés. Et pourtant, ce phénomène, ces échanges économiques qui dépassent les frontières, se jouent aussi dans les pays du Sud, chez des couches moins fortunées de la population mondiale qui ont créé leur propre marché, à rebours des grandes entreprises. Chaussures de seconde main, fripes, pièces de voiture ou appareils électroniques d'occasion, ciment à bas prix, qui sont les as de ce système D qui s'est répandu, semble-t-il, sur notre planète. Deux géographes ont mené l'enquête et ont retracé pour nous le fil de ce marché de pauvres, comme ils l'appellent, un marché fort de 4 milliards de consommateurs, de l'Algérie à la Chine, en passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La mondialisation des pauvres, loin de Wall Street et de Davos, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez tous les deux. Bonjour Olivier Pliez.
Bonjour.
Vous êtes géographe au CNRS, rattaché à l'Université de Toulouse, et vous êtes avec nous depuis les studios France Bleu de Toulouse, que l'on remercie au passage. Et bonjour Armel Choplin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Cotonou, au Bénin. Vous êtes maître de conférences en géographie et en urbanisme, chargé de recherche à l'IRD, à l'université Abomey-Calavi. Et vous, les voisins, les voisines, achetez-vous ou vendez-vous des produits importés ou des objets d'occasion? Si oui, où les trouvez-vous et savez-vous d'où ils viennent? Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et vous nous laissez vos messages vocaux sur WhatsApp au même numéro, je le redonne, 33 1 84 22 71 71. Et nous avons déjà quelques messages qui nous parviennent sur notre page Facebook. Je vous en lis quelques-uns. Thierry est à Bujumbura. Dans les pays en voie de développement comme le Burundi, où je vis, nous sommes attirés par les produits d'occasion importés de l'étranger, comme beaucoup d'autres chez moi. Je m'intéresse peu à l'origine des biens que nous achetons. Je ne sais pas d'où ils proviennent. Afi, depuis la RDC, nous écrit « On a toujours tendance à croire que ce qui vient de l'extérieur est de bonne qualité. On a du mal à consommer ce qui est produit dans notre propre pays. » Et puis Roméo nous écrit depuis Lomé au Togo, le marché de la débrouille est en boom chez moi. Les produits ne sont pas coûteux, ils viennent du recyclage de pays européens ou des États-Unis. Ces produits sont quand même, il faut le dire, parfois très usés.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute. Merci beaucoup.
Alors comment définir cette mondialisation des pauvres, comme vous l'a nommé Olivier Pliez?
Alors, le point de départ, c'est qu'il est difficile aujourd'hui d'envisager de parler d'un quelconque thème qui a à voir avec des questions économiques sans parler de mondialisation. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de mondialisation, on l'envisage d'un point de vue en général et pas d'un autre. Hein, et c'est ce que dit le sous-titre de notre ouvrage, hein, Loin de Wall Street et de Davos, c'est-à-dire loin des flux financiers, loin des rencontres entre les grandes se montent, hein, et loin des multinationales aussi. On n'est jamais très loin des uns et des autres, mais pour autant, les statistiques en général nous donnent à voir une mondialisation qui est celle qui est la plus visible, celle qu'on peut quantifier. Et nous, ce qui nous importait, c'est de voir les autres formes de mondialisation, celles qu'on a rencontrées sur nos différents terrains. Alors la mondialisation, je ne pourrais pas vous en donner une définition claire et nette, mais en revanche, j'ai envie de parler en géographe en disant que sur les terrains qui nous intéressent, et ailleurs dans le monde, partout dans le monde, la mondialisation, en fait, correspond, dans le cadre de ces échanges mondiaux, échanges transnationaux, on dit aussi par le bas, correspondent à des échanges qui auparavant s'effectuaient dans des cadres nationaux, dans des cadres frontaliers, dans des cadres régionaux et qui de plus en plus se font à l'échelle du monde. Donc la mondialisation est d'abord un processus d'échange qui, de manière croissante, s'effectue dans le monde sans pour autant être animé par les plus grands acteurs et les acteurs les plus connus de la planète.
Alors difficile, vous le dites, de définir la mondialisation, un mot derrière lequel se cache un grand nombre de réalités. Je vous propose d'écouter Louis T, québécois, qui aborde dans des vidéos sur YouTube l'actualité et les grandes tendances sociétales avec un brin d'humour et beaucoup de franc-parler.
On en parle beaucoup, parfois en bien, souvent en mal. Je parle de la mondialisation. Fait que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Réponse courte, Ça dépend pour qui. La mondialisation est un phénomène complexe qui se caractérise par l'accroissement des échanges de biens, de services, de capitaux et de connaissances entre les différents pays du monde. Malgré les récentes joies de Donald Trump qui soulignait la création en février de 31 000 emplois dans le domaine manufacturier, les mesures protectionnistes de Donald Trump pourraient mener au contraire à des centaines de milliers de pertes d'emplois. Prenons l'exemple de Bush, en 2002, qui avait lui aussi imposé des tarifs sur l'acier. Selon les études, plutôt que de sauver des emplois, ça avait mené à 200 000 pertes d'emplois. En 2009, Obama avait lui aussi imposé des tarifs, cette fois sur les pneus, et avait réussi à protéger 1 200 emplois. Mais ce sont 3 700 emplois dans d'autres secteurs qui ont été perdus. Mais qui gagne dans tout ça, là? Eh bien, la tendance reste la même. Ça va pas très bien pour les gens qui fabriquent des choses.
Armelle Choplin, le mot mondialisation fait débat aujourd'hui.
Oui, ça fait débat parce que souvent on a tendance à regarder ceux qui gagnent de cette mondialisation et à se focaliser sur ceux qui font beaucoup d'argent. Et nous, l'intérêt, c'était de souligner que cette mondialisation continue à créer d'énormes inégalités, mais aussi c'était d'essayer d'aller voir dans des endroits un petit peu inattendus comment les gens vivent cette mondialisation, comment aussi ils y participent, en sont victimes, mais finalement l'activent et la dynamisent. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'aller voir en Afrique, dans le monde arabe et en Chine, comment dans ces espaces moins connus, en fait, les habitants sont eux aussi mondialisés, alors victimes aussi, mais ont surtout envie également de participer à cette mondialisation, c'est-à-dire ont envie d'avoir un portable, d'être connecté aux réseaux sociaux et puis de consommer activement un peu comme un peu partout dans le reste du monde.
Et ce que vous montrez, en fait, c'est que les pauvres, entre guillemets, ne sont pas exclus de la mondialisation, ils ne sont pas laissés pour compte, bien au contraire.
Non, en fait, on montre bien qu'ils sont évidemment victimes, dans le sens où ils ont très peu d'argent, donc ils n'ont pas un énorme choix d'objets à consommer. Ceci étant, ils ne sont pas exclus, dans le sens où aujourd'hui, ils représentent un énorme marché, ce qu'ont bien compris d'ailleurs les grandes firmes multinationales. Aujourd'hui, pour faire de l'argent, on en fait en Europe, on en fait en Amérique, mais on en fait aussi beaucoup en Afrique, beaucoup dans le monde arabe, et c'est bien ce qu'ont compris les grandes firmes multinationales de télécom, évidemment, ou les firmes de ciment, et aussi tous les commerçants qui font des allers-retours entre la Chine et cette partie du monde.
Et cette mondialisation à laquelle vous vous intéressez, Olivier Pliez, se joue donc entre Méditerranée, Afrique et Chine?
Oui, j'ai travaillé plus particulièrement sur cette région du monde. Déjà, c'est la région qui est au cœur de mes spécialités de recherche, hein, mais aussi avec un point de départ très concret, qui étaient les travaux qui étaient menés il y a une vingtaine d'années sur la mondialisation par le bas, par des collègues sociologues comme Alain Tarius, Michel Peraldi, et qui travaillaient sur ces questions de mondialisation à partir d'un cas très précis, c'est-à-dire que s'est-il passé en France et dans le reste de l'Europe du Sud, une fois que la crise économique des années 70 a entraîné un processus de désindustrialisation et donc des pertes massives d'emplois, dont les premières victimes ont été les travailleurs immigrés en France. Eux, ce qu'ils ont observé, et ce qui est intéressant, c'est que d'autres collègues l'ont observé aussi aux États-Unis, c'est qu'au sein des communautés immigrées, des petits groupes d'entrepreneurs ont commencé à émerger en étant très modestes au début, hein, mais en jouant sur les différentiels de frontières, hein, c'est-à-dire en achetant des produits qu'on pouvait trouver dans les pays du Nord dans lesquels ils résidaient, où ils avaient un passeport, une carte de résidence, hein, et des produits qu'on ne trouvait pas dans leur pays d'origine, dont ils avaient aussi le passeport. Et en fait, cette compétence d'avoir deux passeports leur permettant de circuler aisément, le fait qu'on produise des produits d'un côté et pas de l'autre, alors même que les marchés de consommation étaient en train d'émerger, avec la naissance d'une classe moyenne dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, les a conduits en fait à acheter des produits et à les transporter de part et d'autre de la Méditerranée pour aller les vendre sur les marchés des grandes villes, bien sûr, mais aussi des tout petits villages, de l'ensemble de cette région.
Et à devenir en fait acteur de cette mondialisation. Alors, l'un des visages de cette mondialisation dont on parle aujourd'hui et que les voisins connaissent bien, ce sont les fripes, les vêtements usés, déjà portés, revendus. Je vous propose de partir quelques instants sur un marché de la commune d'Adjamé à Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous tenez ce qu'on appelle une friperie, donc un étal sur le marché d'Adjamé.
Voilà, sur le grand marché d'Adjamé, au niveau du Carrefour Saint-Michel. Voilà, je tiens les habits des friperies. Les friperies qui sont vendues ici, c'est les habits qu'ils ont déjà utilisés. On les emballe, ils viennent ici et puis nous, on les reprend. Il y a d'autres qui ne sont pas portés, il y a d'autres qui sont dans les magasins. C'est les fins de série qui viennent avec les étiquettes.
Alors, on voit des vestes de toutes les couleurs.
Ouais, de toutes les couleurs, là. Cette veste-là, elle vient de la Chine. Ça fait un peu tendance.
En voilà. Jean noir. Et puis vous avez surtout des vestes de bureau.
Voilà.
Celle-là, par exemple, elle vient d'où?
Celle-là, elle vient de Corée. Ils ont les jolies coupes. Avec deux galons sur les épaules. C'est la rouge, là. Elle a été déapportée. Et ça, les tasses dessus.
Ah, il y a déjà des taches sur certaines.
Voilà, ça a été déapportée. Donc, on a des clientes qui travaillent dans les bureaux. Par exemple, au plateau.
Dans le quartier administratif.
Dans le quartier administratif du plateau, voilà. C'est ça. Il y a d'autres qui travaillent dans l'administration. Mais c'est cash pour venir payer. Non, c'est pour ne pas qu'on chasse, qu'elle vienne payer moins cher.
Je suis Kadi. Les friperies, en tout cas en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, que ce soit des pauvres, des femmes riches, des hommes riches, tout et tout, tout le monde l'utilise. Moi, par exemple, 40 à 60% de mes vêtements sont de la friperie. J'ai pas honte de le dire parce que je gagne au moins 130 000 francs par mois. 130 000 francs par mois, hormis mon loyer, mon transport, la nourriture, ça ne peut pas me permettre de payer, de prêt-à-porter tout le mois. Mes collègues le savent, je ne le cache à personne. Bien s'habiller à Abidjan, c'est un challenge pour tout le monde.
Et les fripes, vous nous en parlez, les voisins, sur WhatsApp?
Bonjour Charlie Dupio, bonjour chers voisins et voisines. Je vous envoie ce message depuis le Sénégal à Dakar. En général, j'achète mes produits à Koloban, la friperie appelée plus communément ici au Sénégal Fogadiaï. Il y a aussi des chaussures de balle, les chaussures disons importées chez vous en Europe, les habits notamment aussi. Ça coûte moins cher. Pour les t-shirts, on peut avoir un t-shirt à 200, à 300, c'est de la friperie, mais en général, la friperie ici, c'est la bonne qualité. Tout ça, ça fait que la mondialisation et les produits du bon marché, ça nous fait vraiment du bien.
Bonsoir, je m'appelle Soudi Kossi Patrice Dieudonné, j'habite à Lomé. Et donc il y a un marché qui s'anime tous les jours au niveau du port autonome de Lomé, où il y a vendu tous les accessoires de cuisine, de télé, des matériels électroniques, où tu peux tout voir là-bas, des produits d'occasion quoi.
Bonjour les voisins, c'est Kinon depuis Yaoundé au Cameroun. Oui, je suis un très grand fan, moi, des produits d'occasion, principalement tout ce qui est électronique. Où est-ce que je les achète? Ici, on est en fait, il y a une avenue que l'on appelle Avenue Kennedy. Peu importe ce que tu aimerais, tu trouveras l'Avenue Kennedy. Il y a un autre côté un peu moins luisant, c'est le vol. Les objets que l'on trouve à l'Avenue Kennedy sont issus du vol. Je fréquente des friperies. Notamment, il y a certaines friperies là dans un marché que l'on appelle marché Mokolo, toujours à Yaoundé. J'y vais et je trouve mon compte. Pantalons, t-shirts, sweatshirts, blousons, et même des sneakers, toutes marques, et à un prix très raisonnable. Bref, je suis un super fan, moi, des produits d'occasion. Merci à tous.
7 milliards de voisins, ravi de vous retrouver dans WhatsApp. Je me nomme Abdou Ning. De Dakar au Sénégal. Merci.
D'Abidjan à Yaoundé, en passant par Lomé, Armelle Choplin, et si vous nous racontiez le parcours de ces fripes?
Oui, alors moi aussi, je suis une grande fan des fripes et je vais acheter mes vêtements ici à Missebo, au grand marché de la friperie à Cotonou, bien connu. Les fripes, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est toute une chaîne qui relie en fait directement l'Europe et les États-Unis à cette partie de l'Afrique. Donc souvent il y a des fripes, enfin des vêtements usagés qui sont collectés par exemple dans les rues de Paris, dans des grands collecteurs. Les gens les donnent, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière il y a des sociétés qui vont les trier, ou alors des ONG ou des associations de réinsertion, donc qui va payer des Français pour trier ces vêtements, et une partie va être envoyée justement en Afrique. En fait, elle va être revendue à des exportateurs. Et c'est ces exportateurs-là qui, eux, vont eh bien, faire de l'argent, puisqu'après, ces grandes balles, comme on les appelle, hein, qui contiennent des milliers de pièces, vont arriver au port de Cotonou, Lomé, Abidjan, et vont être revendues localement avec plusieurs intermédiaires jusqu'au petit détaillant qu'on va trouver au coin de la rue et qui va vous vendre un T-shirt, voilà, peut-être 1000 francs CFA, qui finalement aura été vendu 3 ou 4 fois. Donc, c'est quand même très intéressant et c'est un marché assez lucratif, puisqu'en plus, vous avez des différences selon les pays de douane. Par exemple, il est interdit d'importer de la fripe au Nigeria. Donc, les Nigérians viennent s'approvisionner à Cotonou, par exemple, en fripe, qui vont après réexporter sur les marchés de Lagos. Donc, c'est vraiment toute une circulation très importante. Et il y a un des auditeurs là, qui disait la friperie, c'est de la bonne qualité. Et en effet, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent, comme moi, acheter des vêtements venus d'Europe ou des États-Unis, qui sont donc déjà usagés, mais qui en fait sont de bonne qualité, contrairement à d'autres vêtements qui viendraient directement de Chine neufs et qui sont parfois de moindre qualité, comme s'il y avait deux marchés, c'est-à-dire des vêtements qui sont tous produits en Chine, hein, mais avec certains de meilleure qualité destinés au marché européen, on va dire occidentaux, et puis un autre de moins bonne qualité destiné au marché africain. Et c'est pour ça que les gens sont friands eh bien, de tous ces objets, pas seulement des vêtements d'ailleurs qu'on appelle les venus ou les venus de France, parce qu'ils sont en général de meilleure qualité même que des produits neufs venus directement de Chine.
Alors un voisin nous a parlé de vol, il arrive que cela soit le cas ?
Oui, bon, on parle par exemple de vélo volé, on dit que si son vélo a été volé, il faut aller chercher au Zongo par exemple à Cotonou. Mais bon, quand même la plus grande majorité, ce sont plutôt des Africains eux-mêmes qui souvent sont positionnés à Paris, à Anvers et qui vont en fait charger des containers entiers de produits d'occasion qui vont aller repérer par exemple dans les bric-à-brac qu'on peut trouver en France et qui vont charger des containers entiers et vont les exporter ici. Donc je dirais que le vol est quand même minoritaire par rapport à cet énorme commerce qui relie des commerçants africains implantés en Europe, des commerçants européens et d'autres ici sur place qui sont en lien et qui voilà, commercent ensemble.
Alors vous êtes intéressé aussi aux nouvelles routes du Pagne, comme vous les appelez, avec notamment une béninoise qui s'approvisionne en Chine. Alors quelles sont ces nouvelles routes du Pagne ?
Oui, alors en fait pendant très longtemps... D'abord, le Pagne n'est pas le tissu africain comme on croit souvent. Hein. Les Africains savent très bien que le tissu est plutôt du Pagne tissé, enfin des tissus qui sont tissés localement, mais que c'est lié à la colonisation et notamment au comptoir hollandais. Et que le grand marchand de Pagne, on le connaît tous, c'est ce grand.
Avec le wax.
Cette grande marque hollandaise de wax, dont je vais taire le nom pour ne pas faire plus de publicité. Mais aujourd'hui, en fait, les Pagnes, la plupart, sont produits en Chine. Donc, on a eu des femmes qui ont fait fortune dans les années 80, même 70 avant, les Nana Benz à Lomé, au Togo, bien connues. Et aujourd'hui, eh bien, leurs filles, leurs petites sœurs, eh bien, c'est plutôt en Chine qu'elles vont s'approvisionner. Donc, moi, ma fournisseuse de Pagne à Cotonou, c'est extraordinaire. Elle a son portable branché sur WhatsApp. Elle me montre les modèles qu'elle reçoit en photo. Vous voyez, par son WhatsApp. Après, elle me dit les couleurs, en fait, sont passées. Donc, je ne suis pas vraiment sûre de la couleur. Donc, elle se fait envoyer des petits échantillons, là, au grand marché d'Antokpa. Et puis, après, une fois par an, elle part directement en Chine, justement à côté de Yiwu, pour aller chercher ses pagnes. Elle ne parle ni anglais, ni arabe, ni chinois, mais elle parle avec la langue de sa calculatrice, comme elle dit, puisque c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du business dans le monde. Et il y a beaucoup de femmes qui font ce commerce-là et qui partent d'Afrique de l'Ouest jusqu'en Chine pour s'approvisionner directement à la source.
Alors les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour Guilin.
Bonjour.
Alors vous avez 32 ans Guilin, vous êtes à Paris et vous participez vous aussi à ces échanges, hein, à votre façon. Alors on vous écoute Guilin.
Alors déjà vous avez dit mon nom, moi c'est Guilin Lendo Amba. Je me présente rapidement, ma profession ici à Paris c'est routier. Et sinon j'ai une passion, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète. Mais ça m'arrive des fois d'amener des véhicules en RDC, donc en République démocratique du Congo, en moyenne une ou deux fois par an, pour amortir un peu les budgets de voyage, et puis pour booster les projets que j'ai sur place à Kinshasa.
Alors vous achetez en fait des véhicules et vous allez les revendre en RDC.
Voilà. On achète les véhicules d'occasion, des voitures ou des camions, et on les envoie là-bas et... pour vendre quoi.
Combien de véhicules en général ?
Moi, personnellement, je ne dépasse pas deux. Je n'ai pas de gros budget. Soit un camion, soit une voiture.
Et vous les faites partir en bateau ?
En bateau, oui. Ça part depuis le port du Havre ou au port d'Anvers en Belgique.
Et alors, quel revenu vous tirez de tout ça, de ce commerce-là ?
Ça dépend de ce que tu as trouvé. Par exemple, j'ai donné un exemple l'année passée. J'ai fait un camion qui fait 35 mètres cubes. Ça veut dire un petit camion de 7 tonnes 5. Ici, je l'ai trouvé à 2000 euros. Et les frais de déplacement et les frais de port au bateau, c'est 5000 euros, ça m'a coûté. Et sur place, à Boma, c'est le port de la RDC, c'est 6500 euros de frais de douane. Donc on est déjà à 13 500. Alors qu'au prix de vente, là-bas, on me propose 15 000, vous voyez. Donc,
Oui, vous gagnez peu en termes de retour sur l'investissement, 1 500 euros donc,
ouais,
par véhicule.
Espère, voilà. Et bien, ceci, y a pas, on ne peut pas dire un montant exact, parce que c'est le marché noir, c'est comme ça. Maintenant, si tu peux espérer gagner, ben, soit tu mets des choses dans le véhicule même.
Ah, c'est ce que vous faites ?
Tout en sachant que les choses aussi que tu mets dedans, c'est au risque et péril. Donc, il n'y a pas de garantie.
Qu'est-ce que vous mettez dedans, par exemple ?
Moi, personnellement, donc, je préfère mettre des gros trucs. Je n'aime pas les petites histoires qui s'éparpillent à gauche, à droite. Je mets genre le groupe électrogène ou des grosses machines.
Et tout ça rentre dans les véhicules que vous faites venir ?
Si c'est un camion, ouais, par exemple celui-là de 75, le groupe électrogène il passe très bien. Mais la voiture, de toute façon, tu ne peux pas mettre grand-chose. Donc, c'est vraiment pas trop rentable. Quoi.
Merci Guylain, pour ce témoignage. Vous voulez réagir, Armelle Chauplin ?
Oui, Guylain est exactement le type de personne qui nous fascine dans notre livre. Et voilà, un de ces acteurs de cette mondialisation discrète, comme on l'appelle. Et en fait, il y a des milliers de personnes comme Guylain qui font en fait du petit commerce. Et c'est cette mondialisation-là qu'on voulait montrer. Et sur ce commerce des voitures, c'est vraiment un énorme business avec quelques personnes comme Guylain, envoient deux ou trois voitures, ou après, on a carrément des réseaux beaucoup plus importants. On connaît, par exemple, il y a un collègue qui s'appelle Martin Rosenfeld qui vient de sortir un livre qui s'appelle « La Car Connection » entre Anvers et Cotonou, avec là les diasporas libanaises qui sont très investis dedans. Et voilà, en tout cas, c'est ce qui alimente aujourd'hui.
On en a parlé effectivement dans notre émission de cette Car Connection. Et tout ça se fait légalement ?
Oui, ça se fait légalement. Alors, peut-être pas au niveau de ce que monsieur disait, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans la voiture. Je ne suis pas sûre que tout soit recensé. En tout cas, les voitures, oui, sont déclarées. Après, elles sont stockées dans un espace ici en attendant qu'elles soient dédouanées. Donc,
elles ne peuvent pas passer inaperçues, de toute façon.
Non, bien sûr. Une fois que ça sort du port, c'est stocké. Ça ne peut pas aller circuler comme ça tout de suite sur la route. Il faut les dédouaner. Il y a tout un processus lent et compliqué, d'ailleurs, pour sortir ces voitures du port, comme on dit.
Alors, vous êtes bien sur 7 milliards de voisins et on réfléchit aujourd'hui à de nouvelles pratiques qui peuvent paraître informelles, minimes ou insignifiantes. Et si pourtant elles étaient en train, l'air de rien, de bousculer notre économie mondiale.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins, hein ?
On connaissait le covoiturage avec Blablacar en France et ailleurs, la location d'appartements de particulier à particulier avec Airbnb et d'autres sites. Voici venu un autre concept, pas si nouveau que ça, le covalisage, où quand on ouvre sa valise à autrui, moyennant finance bien sûr, certaines compagnies aériennes, vous le savez, permettent à leurs usagers de transporter jusqu'à deux valises de 23 kilos chacun. Mais certains voyageurs n'utilisent pas tous leurs kilos, alors ils peuvent vendre leurs kilos en trop à ceux qui ont besoin d'envoyer des biens à l'autre bout du monde. Et c'est ce que propose l'entreprise ColiGP, qui existe depuis 2 ans et qui compte aujourd'hui 90 000 utilisateurs. Notre reporter Alice Milo a testé pour vous.
Oui, allô ?
Oui, allô, Mouamadou ?
Oui, même.
Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle via le site GP Colis, en fait. J'ai vu votre annonce. J'étais peut-être intéressée pour envoyer un colis. Vous partez bien à Dakar samedi, c'est ça ?
Oui, donc je pars à Dakar le samedi 28. Vous êtes intéressé, c'est ça, pour me transmettre un colis, une enveloppe ?
Absolument, vous avez encore des kilos de disponibles dans votre valise ?
Oui, j'ai quelques kilos de dispo. Vous avez combien de kilos ?
3-4 kilos, c'est possible ?
Oui, c'est possible.
C'est des vêtements ?
D'accord.
C'est combien par kilo?
7 euros le kilo.
7 euros.
Je pense souvent au Sénégal, bah, soit pour des affaires, ou là j'y retourne pour des raisons personnelles, cette fois, parce que j'ai un mariage là-bas, j'ai un ami qui se marie. Et bah, j'en profite pour poster donc, une annonce sur Colugp, et puis essayer d'amortir mon billet à chaque fois. Et...
En moyenne, vous arrivez à récupérer combien d'argent de votre billet d'avion grâce à Colugp?
Bah, à peu près 10%. Pour un billet Paris-Dakar, Dakar-Paris à 600 euros, bah, et que j'arrive à empocher 60 euros, bah, c'est top.
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Mamadou. Du coup, bah, je réfléchis, je vous rappelle pour qu'on se trouve un moment, pour qu'on se trouve un rendez-vous, c'est ça?
Oui, il n'y a pas de souci.
Bonne journée, à bientôt alors.
Salut.
Je suis Aliou Badaranyang, donc je suis le fondateur du site colugp.com. Concrètement là, si vous venez sur le site colis-gp.com, on clique sur trouver un covaliseur. Donc là, par exemple, j'ai pas mal d'annonces.
Binda, par exemple, qui part lundi, donc aujourd'hui.
Et donc, elle propose le kilogramme à 8 euros. Il suffit juste de la contacter et puis en ce moment, vous allez convenir d'un lieu de rencontre pour lui remettre le colis.
Et alors, comment vous avez eu cette idée, en fait, au départ?
L'idée m'est venue tout simplement de mon vécu en tant qu'étranger d'origine africaine résident en France. Donc, j'ai souvent été confronté à des difficultés à chaque fois que je souhaitais effectuer un envoi en Afrique. Si on passe par d'autres moyens traditionnels, c'est soit des délais qui sont démesurés, soit des prix qui ne rentrent pas dans le pouvoir d'achat de la plupart des gens qui expriment ce besoin-là. À l'époque, en étant étudiant, je n'avais pas les moyens de me payer quand même 190 euros pour un envoi d'un format A4 en Afrique. Donc du coup, ce que je faisais, c'était passer par les gens de mon entourage qui partaient donc occasionnellement donc, au pays pour des vacances ou pour d'autres occasions. Et il m'arrivait aussi de poster sur mon mur Facebook donc une demande pour voir si dans mon cercle d'amis il n'y avait pas des gens qui envisageaient de partir dans les prochains jours. Et parfois en cas d'urgence aussi, il m'arrivait d'aller à l'aéroport pour interpeller des voyageurs.
Mais tout ça, c'était gratuit, c'était sous la forme de service en fait.
Parfois c'était gratuit, mais aussi on était ouvert à des gens qui nous disaient « moi je peux vous transporter, mais en ce moment vous me donnez un petit quelque chose ». Donc on était ouvert à tout. Je me suis rendu compte en fait que tout le monde faisait la même chose. Toutes les personnes dans la même situation que moi, c'est-à-dire tous les étrangers d'origine africaine qui résidaient en France. Donc sauf que chacun le faisait de manière un peu locale à son niveau, de bouche à oreille. Et donc du coup, l'idée de Colugp, c'était de leur permettre de venir sur un endroit où on propose que ça. C'est-à-dire on va centraliser toutes les opportunités, ça sera une sorte d'annuaire et de rendre le service accessible par tout le monde.
Mais généralement, les gens veulent envoyer quoi, en fait?
Moi, la première fois que je voulais effectuer un envoi, donc c'était pour des papiers administratifs, c'était un extrait de naissance et un casier judiciaire que je voulais faire venir pour des raisons administratives. Parfois aussi, il y a des denrées local que je ne trouve pas forcément ici.
Comment être certain que le covaliseur ne va pas partir, va pas s'enfuir avec notre paquet?
Nous mettons donc à la disposition de nos utilisateurs un certain nombre d'informations, donc l'expérience de la personne. Donc si vous voyez quelqu'un qui au moins a fait 10-15 publications et que vous voyez que c'est quelqu'un qui a reçu plusieurs avis positifs, donc c'est certainement quelqu'un de confiance. Donc en plus de ça, nous on effectue quand même des vérifications de profil à travers les pièces d'identité, le numéro de téléphone. Après, nous, on envisage plus tard, après la monétisation, proposer une assurance qui sera incluse, comme ça, en cas de perte, de toute façon, vous serez remboursé. Et ça fait aussi des connaissances, parce qu'on a eu plusieurs retours d'expérience. On a même eu l'année dernière un couple qui s'est marié, parce que tout simplement, ils se sont connus à travers la plateforme.
Et donc, bientôt, un bébé Colugp aussi.
Sûrement, bientôt, un bébé, des bébés Colugp.
Alors, des expatriés français se mettent également au Colugp pour faire parvenir des biens dans les valises de particuliers sur le continent africain. Olivier Pliez, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein, ce covalisage?
Non, alors, avant le covalisage, il y avait les cabas, les porteurs de cabas, qui étaient, dans les années 80, l'époque, la période dont je vous parlais tout à l'heure, où ces pratiques commerciales hein, par le bas sont mises en place, hein, qui étaient ceux qui portaient des cabas, donc ces cabas en fibres synthétiques, on remplit de vêtements, et qui eux-mêmes se chargeaient de plusieurs couches de vêtements sur eux-mêmes pour en ramener le plus possible. Hein. Depuis Marseille ou depuis Gênes, c'était en ferry jusqu'au Maghreb. Maghreb. Mais depuis Istanbul, on est passé à l'avion après, dans les années 90. Et à ce moment-là, cette question des marchandises en soute est devenue une question importante. Pendant des années, on a vu que les arrangements se faisaient de gré à gré dans les files aéroportuaires. Mais la montée en puissance des contrôles de sécurité un peu partout fait que ces pratiques sont progressivement tombées en désuétude et que le type de plateforme dont on a entendu parler finalement a pris le relais, puisqu'il y a toujours des gens qui auront plus d'affaires à transporter qui n'ont de place et d'autres qui voyageront léger. Cette plateforme permet la rencontre, mais elle s'inscrit, à mon sens, dans une pratique ancienne.
De longue durée. Alors vous avez mené notamment l'enquête en Chine, dans la ville de Yiwu, à 2 heures de train au sud de Shanghai, pour raconter ce que vous appelez le miracle de Yiwu. Alors vous nous expliquez ?
Oui, alors le miracle de Yiwu, c'est pas moi, ce sont les autorités chinoises qui sont jamais, en économie de compliments concernant cette ville et sa réussite à l'échelle du monde. Peut-être un mot concernant Yiwu, parce que parmi les nombreux entretiens qu'on a entendus, j'ai retenu un élément intéressant d'un auditeur qui disait qu'on ne se préoccupe pas de l'origine des produits, ce qu'on veut c'est des produits et de préférence de qualité, ce que disait un autre auditeur. Moi, avant d'arriver en Chine, justement, je me suis préoccupé de l'origine des produits. Et ça se fait de manière très concrète, en parlant avec des acheteurs, en parlant avec des porteurs, en parlant dans des grandes villes, en Libye, en Égypte, et en parlant aussi à la frontière avec ceux qui sont dans cette économie de l'échange au quotidien. Et à chaque fois, je leur posais la même question, mais d'où viennent les marchandises? Et on se rend compte que tout le monde ne sait pas d'où viennent les marchandises, y compris au sein de ces corporations de commerçants. Seuls sont au courant les commanditaires, en fin de compte. Les autres disaient ça vient de loin ou ça vient d'Asie. Mais au fur et à mesure qu'on monte et qu'on arrive à atteindre le niveau des gros importateurs, les informations s'affinent et la plupart d'entre eux m'ont donné une adresse, en fait, en Chine. On peut dire ça comme ça. Même pas un nom de ville, mais une adresse. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles dans le quartier arabe de Yiwu. Bon, donc du coup, j'ai regardé où était Yiwu sur la carte, parce que c'est pas une ville touristique. Et en revanche, c'est une ville qui est connue par les acheteurs, en gros, du monde entier, parce que des grossistes viennent de tous les continents, quotidiennement, dans cette ville de Yiwu. Elle est très animée et c'est une ville qui est construite d'abord autour de ces marchés et des marchés où on expose des produits qui sont ensuite vendus en gros.
Et on y trouve en fait des menus articles. Alors qu'est-ce que c'est ces articles?
Ouais. Alors ça c'est une particularité de la Chine. Armel tout à l'heure parlait des pagnes qui venaient d'une ville à proximité de Yiwu. Et ça c'est l'héritage industriel chinois où chaque ville chinoise inscrite dans une doctrine collectiviste de un village un produit, proposer un créneau particulier de marchandises. Alors, il y a des endroits où on trouvera des fermetures éclairs, d'autres endroits les chaussettes, d'autres endroits des pagnes, ou du carrelage, ou tout ce qu'on veut. Et la ville de Yiwu, elle, a commencé à se spécialiser dans un créneau particulier pour faire face à une compétition féroce au sein même de la Chine. Et c'est à la suite de ça que, pour sortir de cette concurrence chinoise, elle a essayé d'atteindre les marchés internationaux en construisant une image de marque autour de la vente des petits articles. Alors les petits articles, c'est quoi? C'est tous les objets de décoration des maisons, par exemple, et les fleurs en plastique, les cadres pour les photos, etc. La plupart viennent de là-bas. On y trouve aussi des articles religieux, des petits porte-clés, des stylos, des cadres, des statues de toutes les religions du monde. On y trouve aussi des articles en papeterie. Enfin, on y trouve des centaines de milliers d'articles et des centaines de milliers d'articles de différents niveaux de qualité qui donc peuvent s'adresser à tous les acheteurs et potentiellement à tous les consommateurs du monde, autant au sud qu'au nord.
De tous les continents. Alors Armel Choplin, les produits chinois de Yiwu et d'ailleurs inondent les marchés en Afrique de l'Ouest.
Oui, évidemment, on a tous des produits qui viennent de Chine, de la sandale en plastique, en passant par la bassine, mais aussi en passant par des produits agroalimentaires qui, pour certains, sont transformés aussi en Chine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une omniprésence du produit chinois et de toute qualité. Voilà, il n'y a pas que des produits de mauvaise qualité. C'est vrai que la Chine a aussi beaucoup misé sur la montée de gamme, ce qui évidemment intéresse aussi toute cette classe émergente, on va dire, africaine, qui a envie de consommer et aussi de ne pas consommer que des produits de mauvaise qualité.
Les voisins, les voisines, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour continuer de décrypter cette mondialisation presque invisible. Mais d'abord, White Privilege de The Kiffness. Parents pay your tuition fees and you have a lot of opportunities. Privilege. Whoa, white privilege. When you see a protest and like to complain while you tweet about it and drink champagne. Privilege. Whoa, white privilege. When you didn't have to deal with years of oppression, but deny that you benefit from your complexion. Privilege. Whoa, white privilege. When you cry because your guilt is an issue, but the skin's the same color as your three-ply tissue. Privilege. Whoa, white privilege. When you want your rhymes to be a maze, but they all just seem so mayonnaise. Disability, white disability. When you're at a wedding and you want to dance, but as much as you try, you don't stand a chance. Disability, white disability. Carla Carter comes on, it's your favorite song. It feels so right, but you look so wrong. Disability, white disability. Real and crippling fears, but when you cry, they just call white tears. Disability, white disability. Milliards de voisins au cœur aujourd'hui d'une économie informelle, ou formelle d'ailleurs, qui pèse, une autre mondialisation vue d'en bas qui bouleverse à sa façon l'économie de notre planète. Avec nous pour en parler, Armelle Choplin, maître de conférences en géographie et en urbanisme, chargée de recherche à l'IRD Université Abomey-Calavi au Bénin et en ligne avec nous depuis Cotonou. Nous sommes également en compagnie d'Olivier Pliez, géographe au CNRS, avec nous depuis les studios France Bleu de Toulouse. Vous publiez tous les deux le livre passionnant La mondialisation des pauvres, loin de Wall Street et de Davos, aux éditions du Seuil. Alors un autre sujet, un vaste sujet abordé dans votre livre, c'est le ciment en Afrique de l'Ouest. Nous partons direction la zone industrielle de Vridi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. De nombreuses multinationales de différents secteurs, construction, agroalimentaire, services, y sont implantées. Mais depuis quelques années, la colère gronde. Tout a commencé quand le cimentier Lafarge Holcim a installé dans cette zone un entrepôt de stockage de clinker et de calcaire. Et avec le passage continu des camions lourdement chargés, la route goudronnée depuis peu se dégrade rapidement. Pire, la poussière de calcaire et de clinker qui s'échappe des camions recouvre toute la zone et elle rend l'air irrespirable. Alors Lafarge Holcim a été alertée par les entreprises voisines. Elle s'est engagée à couvrir les camions et à arroser la route. Des mesures inefficaces aujourd'hui abandonnées, alors qu'un document produit par la firme elle-même alerte sur la dangerosité de cette poussière et ses effets nocifs sur la santé. Pour les entreprises voisines et puis pour les nombreux travailleurs de la zone, l'attitude de la multinationale est jugée irresponsable. C'est un reportage sur une route poussiéreuse d'Abidjan, d'Igor Strass.
On mange poussière ici, on boit poussière. On ne peut pas manger. Ça nous rend dans les narines partout. Ils n'ont qu'à dégager.
Et avant, c'était pas comme ça?
Jamais, ça n'a jamais été comme ça. Il y avait du bitume ici.
Et donc, vous mangez ici tous les midis?
Chaque midi. Nos patrons ne font rien pour ça. C'est nous qui souffrons.
Concrètement, la poussière là, sur la santé, ça fait quoi?
Moi, je sais pas.
On n'a pas encore fait des analyses. On ne sait pas pour le moment. On a encore
rien fait d'analyse.
La poussière, c'est peut-être à long terme. On ne peut pas attendre que quelqu'un tombe malade avant de savoir que la poussière n'est pas. La poussière n'est pas une bonne chose. Ce genre d'entreprise, est-ce que c'est bien de rester en pleine ville?
Mais eux, ils ont besoin de la lagune pour aller au port, tout ça quoi.
Il y a la lagune. Aïe, c'est tout à Abidjan, il y a la lagune. Même à Bobo, il y a la lagune là-bas. Ici, ils ont fait manger.
À l'est de la ville.
Est-ce que là, eux, ils proposent d'arroser, de mettre des bâches sur les camions, des choses comme ça?
C'est pas bon. Le camion, mais il est poussiéreux déjà. Est-ce qu'on arrose le camion?
Le cas dégagé.
Après, ça coule là, c'est pas arrosé.
Merci, messieurs.
Merci à vous, par exemple.
Bon appétit quand même.
Merci.
Moi, c'est Loa Diomandé.
assistant qualité à la société PKL. Actuellement, on est sur la rue Sylvestre à Bridy. Donc voilà notre voie, la rue Sylvestre. Tout est carrément dégradé parce qu'il y a les camions de la FAGE qui font des va-et-vient à tout moment. Donc la fréquence là, tellement élevée, ça fait qu'aujourd'hui la voie est dégradée. En passant, ils laissent verser les ciments. Et cette poussière de ciment, nous respirons à longueur de journée lorsque nous venons travailler dans cette zone-là.
Donc là, effectivement, on marche le long de la route. Hein.
Oui, tout à fait.
Bah, c'est une route où il n'y a plus de goudron.
Il n'y a plus de goudron, c'est fini. Tout est dégradé, c'est fini. C'est la terre rouge mélangée avec les dérivés de ciment.
Et avant, c'était du goudron ici quand même ou pas?
Oui, c'était du goudron.
Parce que là, on n'en voit plus la trace maintenant, c'est que de la poussière.
Il n'y a plus rien, tout est parti. À cause de l'affluence très élevée des camions qui passent ici, vous venez déposer dans le dépôt de la FAGE ici.
Et alors, c'est un dépôt de quoi ça?
C'est du clinker, un composant du ciment, mais apparemment qui est toxique et dangereux pour la santé. Et on respire.
Pour expliquer, quand les camions passent là, est-ce qu'ils sont bâchés ou pas?
Au début, les camions n'étaient pas bâchés. À un certain moment, ils ont commencé à bâcher les camions. Mais ça ne suffit pas. Le problème n'est pas de bâcher forcément les camions. Lorsque les camions finissent de déverser leur chargement, il y a les restes qui versent au fur et à mesure que les camions se déplacent. Il y a les parties qui restent dans les camions. Et ça verse tout au long du trajet lorsque les camions vides se retournent. Comme la route est gâtée, à cause des mouvements, la poussière de ces produits-là s'évade. Et puis voilà, ça verse sur les gens. Voilà.
Pour ça, ça me donne maladie, c'est malade.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Alors comment ça va vous?
Ouais, ça va un peu. Parce que pour ça, ça m'a donné maladie, c'est malade, mon enfant est malade.
Mais vous avez quoi
alors? Cherché solution.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quoi?
Je suis enrhumée à cause de la poussière. Mon enfant aussi, tu as vu son
morve. La petite fille là, elle est pareille.
Tu as vu morve là.
Ouais.
Poussière là, ça l'a donné maladie.
Et avant, n'avait pas ça?
Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, depuis qu'ils sont venus, poussière là, ça nous fatigue. Donc, ils n'ont qu'à chercher une solution pour les dégager d'ici. C'est ça.
Bah oui, je voulais servir. Merci madame, bon courage.
La poussière là, c'est pas le fait de simplement verser l'eau sur ce goudron là. Même vous voyez cette société là, c'est une société alimentaire puisque cacao là, ça se consomme. Toutes les poussières, ça rentre partout. On respire ça, on mange ça, on consomme ça. Actuellement, tout le monde est victime de cette société là. Ici, même la voie, regardez, nous n'avons plus de caniveaux. Tout est bouché. Ok, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a rangé cette voie là. Tracé ouvert bien les caniveaux. Il n'y a plus d'issue pour que l'eau passe.
Et ça s'est détérioré en combien de temps?
Les gens n'ont même pas fait 2 ans ni 3 ans. Tout est déjà bousillé.
Et alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que voisin de la société Lafarge-Holcim ici?
Nous, on leur dit que vraiment ce qu'ils sont en train de faire là, ça nous gêne, c'est en train de nous rendre malades. Si ça continue comme ça là, nous, on est en train de les poursuivre pour qu'ils puissent arrêter ces genres d'activité. Ou bien prendre des mesures qu'il faut pour que cette poussière là puisse quitter d'autres zones. Sinon, ça, c'est vraiment un problème de santé publique.
Parce que vous, en plus, vous fabriquez des produits alimentaires pour bébés.
Oui.
Donc, quelles sont les conséquences de cette poussière sur vos produits à vous?
C'est dangereux pour nous parce que la poussière que nous ne connaissons pas, ça a contaminé nos produits et ça, c'est difficile. On ne sait pas comment gérer ça. Maintenant, il y a l'aspect aussi technique des machines que nous avons. Donc, les fréquences des entretiens augmentent parce que là, la poussière se dépose dans les roulements des moteurs et les machines se gâtent à longueur de journée. Ça aussi, c'est un problème.
Alors ici, on est en zone industrielle, donc il y a énormément de sociétés qui sont ici.
Oui.
Est-ce que les autres sociétés vous suivent dans cette démarche?
Pour le moins, les entreprises qui sont tout au long de cette rue Sylvestre, nous avons décidé de se mettre ensemble pour porter notre voix, pour qu'on puisse se faire entendre. Au départ, il y a eu des cas isolés, de plaintes, tout ça là, mais ça n'a pas porté, parce que étant isolé, on ne peut pas. Donc on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir attaquer la chose et que ça s'arrête.
Reportage d'Igor Strauss qui a tenté de joindre la direction locale de Lafarge-Holcim sans succès. Armelle Choplin, que vous évoque ce reportage?
En fait, on arrive là au paradoxe du ciment, on va dire, en Afrique, où une partie des cimenteries sont en fait dans les ports, et aujourd'hui la ville s'est construite autour des ports, et donc il y a forcément des particules qui s'échappent, sachant que la production de ciment ou même le stockage de ciment est l'une des industries les plus polluantes au monde. Donc ça pose des vrais problèmes, et ça pose d'autant plus de problèmes que la demande en ciment aujourd'hui dans cette partie d'Afrique de l'Ouest est énorme. On est, si vous voulez, il y a un taux de progression de ciment qui est très conséquent. On est à des taux d'une centaine de tonnes de ciment par habitant, alors que la moyenne internationale est autour de 500. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de progression du ciment qui est énorme.
Et le ciment, en fait, est vu comme un symbole des réussites sociales. C'est avec lui qu'on construit sa maison, qu'on bâtit en dur, en fait.
Voilà, exactement. Le ciment, aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord un indicateur économique. C'est écrit, hein, le prix du ciment est écrit tous les jours devant les dépôts, les quincailleries, comme un indice de bonne santé économique. Dès que le prix du ciment augmente, c'est des tensions très fortes. Le prix a augmenté, par exemple, de 15 000 francs CFA là, depuis une semaine au Bénin. Et ça y est, les tensions se font déjà ressentir. Et puis, c'est aussi un symbole de réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi en Afrique de l'Ouest, il a son chez, son chez-soi, et il a, on peut dire que sa réussite se mesure en tonnes de ciment qu'il a réussi à faire couler. Donc c'est vraiment pas seulement juste le fait d'avoir une maison comme ça, mais c'est aussi de pouvoir montrer qu'on a construit en dur, donc on est aussi légitime dans la ville et légitime à rester.
Et où est-ce qu'on achète ce ciment ? D'où est-ce qu'il vient ?
Alors, ce ciment, aujourd'hui, il y a toute une géopolitique, il y a un enjeu majeur autour de la production du ciment. Donc, il y a les grandes sociétés, on va dire, européennes, Lafarge-Holcim, vous avez cité Heidelberg, hein, qui a CIM Togo, CIM Bénin, par exemple. Mais il y a aussi maintenant l'homme le plus riche d'Afrique, M. Aliko Dangote, bien connu, 50e fortune mondiale, qui a marié sa fille il y a 2 semaines et qui a invité tout le gratin, on va dire, du monde. Aliko Dangote, aujourd'hui, il est en train de concurrencer les grandes firmes européennes. Il a réussi à s'implanter en une quinzaine d'années dans la plupart des pays africains. Et sa stratégie, c'est de faire en sorte que l'Afrique soit autosuffisante en production de ciment. D'abord, le Nigeria, ça y est autoproducteur et autosuffisant. Et d'ailleurs, il exporte, ce qui embête beaucoup les pays voisins. Aujourd'hui, il y a du ciment produit au Nigeria qui traverse le Bénin, est revendu de façon plus ou moins informelle au Togo et est acheminé jusqu'à Accra, au port de Tema, pour ensuite être distribué au Burkina, en Côte d'Ivoire, en attendant que M. Dangote ouvre sa grande cimenterie en Côte d'Ivoire. Je crois que ce sera l'année prochaine. Donc, vous voyez, toute une stratégie de redéploiement et de concurrence pour essayer de profiter de cet énorme marché des pauvres, hein, puisqu'on est, il y a 30 millions d'habitants qui vivent là. On dit qu'il y aura 50 millions en 2050 entre Accra et Lagos. C'est donc un énorme besoin en ciment. C'est considéré comme un produit de première nécessité. D'ailleurs, souvent, les prix sont régulés par l'État, comme le pain ou le riz.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Faire une géographie des autres mondialisations et pas seulement de la mondialisation. Qu'est-ce que cela apporte, finalement, Olivier Pliez ?
D'abord, de parler de ce dont on ne parle pas assez, qui concerne le quotidien, on l'a vu à travers les témoignages, qui concerne le quotidien de la plupart des habitants de la planète. Et quand je dis la plupart des habitants de la planète, je ne parle pas des habitants des Sud uniquement, mais des habitants de l'ensemble de la planète. À Iwu, on trouve des acheteurs du continent africain, d'Amérique latine, on en trouve aussi des États-Unis ou de différents pays européens. Cette mondialisation nous concerne tous, mais cette mondialisation est difficile à décrire.
Puisqu'elle est informelle aussi pour beaucoup.
Parce qu'elle est informelle, parce qu'elle est souvent associée à des pratiques illicites, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les pratiques illicites naissent des contraintes.
Une mondialisation dont laquelle dont il est important de parler, et vous le faites très bien. Merci à vous Olivier Pliez, merci également Armelle Choplin. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez tous les deux, La mondialisation des pauvres, loin de Wall Street et de Davos. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Baptiste Madinier, mais aussi merci à Raphaël Lazizi, et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation, comme chaque vendredi. Quelle place pour l'art à l'école, à quoi bon l'enseigner et sous quelle forme? À demain!